Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h49, les grands débats du matin. Visiblement, le casting pour le Premier ministre, ça patine pour l'instant. On ne trouve personne. Si vous avez des idées, des propositions, 0826-300-300, puis on va revenir bien entendu sur l'accord entre les socialistes et les insoumis qui est en bonne voie. Dites-nous ce que vous en pensez, ce qui est une bonne chose. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont des points de convergence ou non? On en parle ce matin avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, et dans quelques instants après 9h, ouais, avec Éric Revel.
Bon, et finalement, Elisabeth et Alexis, est-ce qu'on n'a pas là, en ce moment, la gauche la plus intelligente du monde et la droite la plus bête du monde, quoi? Commençons par Alexis, tiens, et puis ensuite Elisabeth, quoi.
On a surtout une gauche active. On a une gauche, ouais, qui s'active pour l'union, qui s'active aussi pour l'union des programmes, puisque l'Avenir en commun est à la plateforme de base, hein, la discussion du PS, au-delà, bien sûr, de la tambouille pour les circonscriptions, c'est l'idée d'un programme commun et de voir comment tout ça peut arriver. C'est un peu dommage que ça arrive après les élections présidentielles, hein, on a envie de dire, mais au moins ça arrive. Ouais. Et c'est sûr qu'à droite, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est simplement de la critique assez infondée, puisqu'à droite, beaucoup ont déjà rejoint Emmanuel Macron de par le passé, ou sont en train de le faire. Donc on voit bien que les jeux d'appareil sont les mêmes à droite et à gauche. Donc pourquoi critiquer ce que fait la gauche si la droite fait la même chose? C'est la première fois que la gauche arrive à le faire, donc c'est un peu historique, enfin pas la première fois, mais la première fois depuis longtemps, on va dire. Je parlais d'Épinay, 80 Mitterrand. Donc évidemment, ça s'agite et on se dit, est-ce que la recomposition politique tant attendue n'est pas en train de se faire? Et c'est la gauche qui mène le bal.
Oui, Elisabeth Lévy.
Moi, je dirais que la gauche s'allie malgré ses principes, ou malgré les principes d'une partie, si vous voulez, parce que, encore une fois, je n'oublie pas, et je le rappellerai pendant les années à venir, les déclarations vraiment déplorables de Jean-Luc Mélenchon sur le Parti travailliste anglais qui cédait au rabbinat, sur Mohamed Merah qui n'était qu'une affaire d'opportune, enfin, les attentats de Mohamed Merah qui étaient une manipulation électorale. Oui, non, mais ça fait marrer Alexis, mais moi, ça me fait pas marrer, à vrai dire.
Non, parce qu'il
va vous répondre.
Reproché à Zemmour des propos qu'il a tenus il y a 10 ans. Je suis désolé, pendant toute la campagne. De voir un type, si vous voulez, qui est capable de faire des risettes aux islamistes, je veux dire, sacré par tout le monde, par la grande presse, qui est là complètement enamouré, je veux dire, et que, à qui personne ne rappelle cela, personne ne l'interroge là-dessus, personne ne lui dit, mais enfin, monsieur Mélenchon, vous avez dit ça, excusez-moi, moi, ça m'enrage.
Alors, réponse d'Alexis.
Et juste, je dis un mot sur la droite. La droite, c'est le contraire. Ou plutôt, Alexis a raison. Moi, je pense qu'il faut une clarification idéologique, que ceux qui rejoignent Macron parce qu'ils sont d'accord avec lui sur l'essentiel, l'Europe, etc., le rejoignent, ça ne me pose aucun problème. Et il reste une grande partie de la droite qui est d'accord, pas sur tout. Elle n'est pas d'accord sur l'économie notamment, mais elle est d'accord quand même sur des choses qui sont existentielles. Ouais. Et malgré cela, elle n'arrive pas à s'allier. Effectivement, elle n'arrive pas. Au moins, je dis pas qu'il faudrait une grande union comme à gauche, ça je pense que c'est vraiment forceps.
Robert Ménard,
des accords électoraux, c'est-à-dire des accords de désistement réciproque, des candidatures uniques, ça me paraîtrait pas scandaleux, et il n'arrive pas à le faire pour des raisons aussi personnelles, je trouve ça déplorable.
Oui, Alexis Poulain, alors sur les reproches faits à Jean-Luc Mélenchon par Elisabeth, enfin en tout cas...
Et je salue votre moustache d'Astérix.
C'est tout le temps ces reproches-là qui sont faits, bien sûr, l'islamo-gauchisme qui revient, les mêmes critiques qui reviennent, donc c'est pas nouveau, c'est sûr que c'est peut-être moins rappelé maintenant parce que Jean-Luc Mélenchon a réussi quand même à faire un score dont il peut être fier au présidentiel, et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui l'union de la gauche se fait autour de l'union populaire et pas autour du Parti Socialiste comme c'était le cas par le passé. Donc, dans les petites phrases, tout le monde...
Mais c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai que... Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui ennuie une partie du Parti Socialiste, c'est de perdre finalement la main. Et c'est pour ça que les négociations étaient aussi longues. Elles viennent d'aboutir maintenant aujourd'hui. Le Bureau National doit le voter et l'entériner. Ça veut dire le départ de Monsieur Cazeneuve, par exemple, ancien Premier ministre, mais aussi sans doute d'autres éléphants qui vont décider de rompre les ponts avec le Parti Socialiste, parce que une nouvelle page de ce parti s'ouvre. Et parce qu'aussi, je pense que cette recomposition politique, elle est nécessaire. On l'a appelé de nos voeux, et à droite et à gauche, pendant toute cette campagne présidentielle, voyant bien que les partis traditionnels étaient en train de s'effondrer, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, c'est en train de se passer à gauche. Maintenant, je suis sûr qu'à droite, ça va aussi réveiller certains appétits, certaines envies. Et Marine Le Pen est bien silencieuse, je trouve, c'est étonnant, puisqu'elle était quand même la deuxième de ce scrutin.
Donc elle devrait peut-être. Mais mon cher Alexis, pardon, mais vous allez me répondre. Oui. Excusez-moi, je vous connais, vous êtes républicain, vous n'êtes pas du tout branché sur ces thèses islamo-gauchistes et vous avez botté en touche. J'aimerais savoir ce que, à vous, électeurs de gauche, ça fait. Est-ce que ça ne vous pose pas jamais un problème? Je veux dire, je vous rappelle quand même qu'on enquiquine depuis 10 ans,
Attendez, Elisabeth, vous avez posé une question, ouais, essayez de répondre.
Le procès qui a été fait sur la manif où il y avait des fondamentalistes qui étaient là, Jean-Luc Mélenchon, lui, était là avec les syndicats pour défendre justement la laïcité et toutes les confessions. Donc, sur la laïcité, Jean-Luc Mélenchon est clair pour moi. Et faut écouter son discours à l'Assemblée qui est brillant sur la laïcité à la française. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Je vois bien, il y a eu le même procès qui a été fait pour Corbyn. Corbyn, c'est autre chose. Il y avait la cause palestinienne qui était derrière, il y avait beaucoup d'autres choses, mais le Labour anglais
surtout l'antisémitisme.
Bien sûr, mais c'est pas du tout le même cas de figure pour la France insoumise et en particulier pour Jean-Luc Mélenchon qui a quand même une carrière assez longue en politique pour avoir de quoi avoir suffisamment d'archives et de dossiers pour le dire. Mais je crois qu'il a clarifié tout justement sur ces points-là. Et maintenant où ça joue, c'est simplement parce que certains pontes du Parti socialiste ne supportent pas de perdre le pouvoir et de voir que le parti qu'ils ont créé, et on comprend, c'est une aventure de plus de 30 ans, 40 ans, est en train de mourir sous leurs yeux. Et ça, je comprends que certains aient du mal à l'accepter, comme M. Cambadélis ou d'autres.
Ouais, excusez-moi, mais je suis pas totalement convaincu parce que vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon a dragué les voix islamistes, qu'ils ont été les chercher sur des thèses identitaires.
Mais regardez ce qu'a fait Valérie
Alexis,
Pécresse.
Vous vous asseyez sur vos principes.
Mais regardez, tous les politiques ont fait ça. Mais regardez le nombre de
mais on
politiques
leur reproche.
Qui ont travaillé avec des leaders, avec même c'était les frères musulmans pour certains à droite. Donc il y a pas, enfin ce procès-là, il peut être fait à toute la classe politique française depuis des années.
Bon, on ne vous mettra pas d'accord. Incontestablement autour de ça, on a tendance à se construire à gauche et à droite, ça reste en chantier total. Quoi. Voilà ce que l'on peut dire. Pour l'instant, et Emmanuel Macron, lui aussi, c'est en chantier. Il essaie de construire et de former son nouveau gouvernement. Il a du mal à trouver
son premier ministre.
Son premier ministre, un petit peu l'architecte en chef, quoi, en fait, hein, quelque sorte, pour former son gouvernement. Alors c'est un homme, une femme. Il y a eu plusieurs refus. Il se ramasse râteau sur râteau. Là,
moi, j'ai rien reçu. Vous avez reçu un truc, Patrick ?
Non, il faut être une femme. Hein, donc, je ne crois pas être venue une femme.
Elisabeth, vous avez reçu une invitation ?
Non, mais Patrick, vous avez le droit de changer, vous savez, maintenant.
Bien sûr.
Vous avez le droit de changer et de revenir en arrière.
Bon, on va y revenir avec Éric Revel, parce que, évidemment, c'est le nouveau Mistigri. On recherche, en fait, quelqu'un pour... Oui, c'est ça. Pour Matignon. Éric Revel, dans un instant. On reviendra aussi sur l'interview d'Émeric Caron, peut-être aussi avec Éric Revel et vous, Elisabeth Lévy, et vous au 0826-300-300. Alors, il a dit que le permis de voter, une idée qu'il avait lancée il y a quelques années, là, il y renonce pour cette campagne, pour l'instant. Il y renonce, pas question, on verra. Sans doute qu'on lui a dit, tu te calmes, en fait, sur ce sujet. Si tu veux être élu, et si tu veux être élu, en tout cas, sous la bannière de l'Union Populaire de la Gauche, on en reparle. Écologie radicale, en revanche. Oui.
Donc
on arrête de voyager, on arrête de tuer, évidemment, les moustiques, plus de viande, il y a encore 10 ans, 20 ans ou 30 ans, puisque c'est
50 ans, voire 100 ans.
2050.
Voilà, c'est ça.
Dans un instant,
la pénurie d'emploi à Matignon, et on en parle avec Éric Revel. À tout de suite.
Oui, et encore, vous n'avez pas évoqué, mon cher Éric, Elisabeth Lévy est avec nous aussi, un certain Nicolas Sarkozy qui joue un rôle, évidemment, en coulisses. Enfin, pas qu'en coulisses même, parce qu'il a été reçu hier matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Quoi. Donc, est-ce qu'il vient avec ses petits papiers ou pas
Oui, sans doute. Mais Nicolas Sarkozy, maintenant, il est clairement dans le camp d'Emmanuel Macron. Bon, voilà, il a appelé à voter pour lui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a encore l'étiquette d'un électeur, d'un leader de droite ou DLR, non, bien sûr que non. Ouais. Donc peut-être qu'il conseille effectivement Emmanuel Macron sur le choix de la future première ministre, mais vous êtes d'accord, ça traîne pour être simplement un accident de parcours là.
Oui, vous avez raison, mais il y a aussi peut-être une dimension plus prosaïque qui est que le job, là c'est un job pour 2 mois, si vous voulez.
Ça dépend.
Si, c'est un job pour 2 mois pour l'instant, si vous voulez, parce que évidemment, c'est quand même, excusez-moi, il se passe quand même, il y a des élections. A priori, il est assez rare que après des élections législatives, il y ait pas quand même, il se passe pas quelque chose au niveau du gouvernement. Et justement, il se murmure une chose. Je vous livre l'information. Ouais. C'est que Jean Castex, lui, a refusé de rester simplement pour 2 mois. C'est-à-dire, il dit si je reste, je veux rester jusqu'à la réforme des retraites. Si vous voulez, et justement, comme apparemment c'est pas le plan, ouais. Si vous voulez, je vous dis, c'est un job assez précaire pour l'instant, Premier ministre. Donc je pense que ça rajoute, non, ça n'enlève rien du tout à l'analyse d'Éric, fort pertinente comme toujours, mais rajoute une dimension en plus. Si vous voulez, c'est vraiment un CDD, quoi.
Oui, mais alors dans ces conditions, il peut mettre un proche, mais c'est compliqué, pour lui, quoi.
Parce qu'il était même question d'Alexis Kohler, hein, je vous rappelle. Ouais. Alors, ce serait quand même assez drôle. Si vous voulez énerver absolument tout le monde, la droite, la gauche, le centre, je pense que c'est une très bonne idée.
Oui, non, mais alors il y avait Julien de Normandie ou Richard Ferrand parmi ses proches, potentiellement. Je voudrais un mot de commentaire de vous deux aussi sur quand même deux retours ou arrivées en fait dans le politique, dans le cadre des législatives. On ne va pas recommander l'accord PS la France Insoumise, on en a déjà parlé tout à l'heure, et puis on va attendre que ça se confirme définitivement cette fois.
Et puis Alexis n'est plus là.
Oui, et Alexis n'est plus là avec nous, mais il y a tous les auditeurs, 0826 300 300, le retour de Manuel Valls. Il a obtenu une circonscription. Les Français de l'étranger, grosso modo, c'est l'Espagne et le Portugal, je crois. Donc bon.
Et Monaco.
Ah oui, donc il n'y a pas le Portugal, si. Non, je ne sais plus.
C'est Espagne, Portugal et Monaco.
Espagne, Portugal et Monaco. Ah, Monaco. Donc, pour être élu.
C'est pas mal, hein.
Oui, ça veut dire qu'il a de bonnes chances, en fait, d'être élu. Il a dû monnayer. Et puis, de l'autre, Émeric Caron, qui était notre invité, qui, lui, va faire son entrée en politique. Cette fois-ci de façon officielle, sous la bannière justement de l'Union Populaire. D'abord sur Manuel Valls, Elisabeth Lévy et vous, Éric Revel.
Alors écoutez, si vous voulez, Manuel Valls, il faut, je crois, distinguer le fond et la forme. C'est-à-dire que Manuel Valls, sur la ligne qu'il a incarnée, c'est une gauche républicaine, etc., etc. Je ne reviens pas dessus. Simplement, Manuel Valls, c'est un personnage qui n'est pas très aimé, notamment des gens avec qui il a travaillé. C'est-à-dire que vous parlez à n'importe qui dans le monde politique qui a travaillé avec Manuel Valls, il a un grief. Et je crois qu'il n'est tout simplement pas populaire personnellement. Donc, en plus, il s'est comporté d'une façon, c'était pas très glorieux, si vous voulez, le soir de l'élection, sa façon de se faufiler, de vouloir absolument revenir, la façon dont il est quand même allé un peu tirer les pompes.
Ça paye, puisqu'il a une circonscription qui est a priori gagnable. Attendez
qu'il soit élu. Ouais. Parce que, en plus, si vous voulez, quand on vous donne les Français de l'étranger, particulièrement où il y a le pays dont vous êtes issu, c'est un peu qu'on vous a pas trouvé... trouvé une circo gagnable. Ouais. Alors attendons qu'il soit élu, mais je crois que Manuel Valls est assez impopulaire et je crois que c'est de sa faute.
Éric Revel.
Cette circonscription, a priori comme ça, hein, elle a le mérite d'être taillée, sur mesure pour Manuel Valls, dont Elisabeth rappelait qu'il a tenté sa chance au municipal en Espagne, vous en souvenez. Mais attention, il y a un énorme danger, c'est que ça peut être aussi l'humiliation suprême. Parce que s'il est battu dans une telle circonscription, Espagne, Portugal, alors Monaco, j'avais pas vu, mais alors pour lui, c'est même plus la peine qu'il sorte politiquement le nez, il est cuit, archi-cuit. Donc on lui trouve une circonscription qui est quand même pas une circonscription de premier plan, avec le risque que ça comporte, effectivement, qu'il soit de nouveau battu, par les Français qui vivent à l'étranger, et notamment en Espagne, où il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Donc c'est peut-être un cadeau empoisonné, hein, parce qu'on dit que, évidemment, derrière la désignation des circonscriptions, il y a un Emmanuel Macron omnipotent, omniprésent, qui veille à mettre un nom sur chacune des 577 circonscriptions pour La République En Marche. Donc c'est une forme de petits cadeaux, mais qui peut apparaître assez vite empoisonné.
Oui, et concernant donc Émeric Caron, alors
moi, J'ai vu qu'il avait mis entre parenthèses son idée de vote censitaire populaire, parce que ça ressemblait un peu à ça, sa carte...
Le permis de voter, oui.
Le permis de voter, je trouve ça complètement dément. Je trouve ça complètement dément que des gens de la France insoumise, qui sont des pré-postes révolutionnaires, mettent en avant de tels arguments. Alors, vous l'avez noté, Patrick, on lui a demandé, évidemment, de taire, de mettre sous le boisseau de tels arguments électoraux, parce que, alors là...
Alors, je sais pas si on lui a demandé, hein.
En tout cas,
il y renonce, en tout cas.
Voilà, il y renonce de sa propre initiative, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, il faut aussi le dire, cette Union populaire à gauche qui va peut-être faire des étincelles, parce que finalement, la gauche qui apparaissait débordée, coulée avec les idées que la droite mettait sur la table, apparaît quand même, cette gauche, autour d'un joli Jean-Luc Mélenchon qui renaît, apparaît comme la grande gagnante pour l'instant. Hein, parce qu'elle réussit à faire une union avec la carpe et le lapin. Ouais. Alors, de quoi va être fait tout ça ? Enfin, moi, je vais vous donner mon opinion rapide. Oui. C'est que si, mais pour l'instant, les projections ne le montrent pas du tout, mais si l'Union populaire avait une sorte de majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale, mais je vous donne mon billet contre les socialistes, les verts, les communistes et la France insoumise, ça ne durerait pas 3 semaines ou 1 mois à l'Assemblée nationale. Il y a tellement de divergences sur le fond que ça exploserait en plein vol.
Elisabeth,
ça ressemblerait à des gouvernements de la 4ème République. Pardon, Elisabeth.
Oui, d'un mot, Elisabeth.
Pardon, d'abord que Aymeric Caron rejoigne Mélenchon, excusez-moi, c'est assez logique. Idéologiquement, ils sont pas très éloignés, même avant cette alliance. Je voudrais quand même dire un mot sur cette affaire de permis de voter. Oui. Sans le vouloir, parce qu'évidemment, chez lui, il y a une idée que lui, il va savoir qui est... pardon, mais je crois que c'est le mot qu'il a employé, qui est con et qui ne l'est pas. Il y a une certaine arrogance de classe derrière tout ça, je dirais. De classe de bobo. Hein. Cela dit... il faut dire qu'il y a un fond ce qui devrait nous frapper, parce que les gens qui ont inventé le vote, les républicains de la fin du 19e siècle, hein, qui l'ont instauré, qui ont instauré finalement progressivement le suffrage universel en France, savaient que la démocratie, c'est pas seulement le vote, c'est le vote de citoyens éclairés par un débat. Et si vous voulez, il est clair que notre système éducatif aujourd'hui est à la ramasse, et c'est ça qui devrait nous apporter, c'est qu'effectivement, on donne à chacun, si vous voulez, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, ça devrait nous frapper, qu'on donne à chacun les moyens de se faire une opinion de citoyen éclairé. Voilà. Bon, mais je ne crois pas que c'est ce que voulait dire. Non. Je crois pas que c'est ce que voulait dire Aymeric Caron.
En tout cas, ça existe au programme en collège, et ça s'est même développé, hein, contrairement à ce que l'on dit bien souvent, où on avait un peu d'instruction civique il y a quelques années.
Je parle de formation générale. Je parle simplement que l'école ne forme plus des gens. Je peux dire juste un mot pour répondre à Eric sur...
Non, 0826-300-300. Et Elisabeth, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Vous n'avez plus le permis de parler. Ah, voilà. Ce sont les auditeurs Parlons Vrai sur Sud Radio. Parce que après,
dommage, ça les aura intéressés.
Non, mais je sais bien.
Attendez, Elisabeth, bougez pas, vous avez peut-être une réponse à apporter.
Ludovic.
Ludovic de Rochefort est avec nous.
Oui. Bonjour, Ludovic.
Bonjour, Patrick. Bonjour, Cécile. Bon.
Ludovic. Allez-y.
Oui, écoutez-moi, sur l'union, au départ on parlait de l'union de la gauche, alors qu'en fait il faudrait parler de l'union des gauches, puisqu'en effet il y a plusieurs gauches, et moi dans cette union-là je ne retrouve pas la gauche patriote, si vous voulez, et j'ai l'impression que certains sont prêts à perdre leur âme pour un plat de lentilles, pour reprendre une fameuse expression, et donc ils sont prêts quelque part à cautionner une certaine idéologie sociétale qui clive notre nation. Pour avoir des sièges. Et même, je dirais que même en s'associant avec M. Mélenchon, il fracasse, entre guillemets, les digues républicaines dans une forme d'indifférence, alors qu'on voit très bien qu'il y a une forme de complaisance et qu'on ne s'attaque pas au vrai sujet. En plus, cette union-là représente 30% des voix, les législatives sont aussi des élections élections de territoire, donc il faut avoir des personnes qui connaissent également le terrain. Et M. Mélenchon, en voulant être élu Premier ministre, remet déjà, ne serait-ce en cause, le fonctionnement des institutions.
Ouais. Merci beaucoup Ludovic, vous rejoignez en ça ce que disait aussi tout à l'heure Elisabeth Lévy. Merci Elisabeth, merci Éric Revel, Alexis Poulain. Dans un instant, on attend encore vos réactions à la fois sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300, parce que on va parler de liberté d'expression et on va parler de Twitter avec une question, hein, Cécile. Et
avec la question, effectivement, notre question du jour où on vous demande s'il faut légiférer, s'il faut garder tel que c'est. Vous êtes pour la liberté d'expression totale à 81%. Pour changer, vous êtes seulement 7% à le penser. Ça devient n'importe quoi, 4%, et besoin d'encadrer 8%. Donc vraiment, c'est la
liberté
charge totale.
Voilà, ouais, 81%. Jusqu'où peut-on aller, justement, au nom de la liberté d'expression sur Twitter et les réseaux sociaux? Dans un instant, avec deux spécialistes, Laurent Gaillard et puis Olivier Babeau, également jusqu'à 10h. Et vous, 0826 300 300, parce que vous êtes essentiels, vous le savez, et parlons vrai sur Sud Radio.
Échangeons, à tout de suite, 9h20.